VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition Le Monde aujourd'hui de ce mercredi 8 janvier 2020. Ravi de vous retrouver au microphone. Je suis Irénée Herman Rumba en compagnie de
Anne Alberton pour vous présenter ce journal dont voici les titres.
Rebondissement du bras de fer entre Téhéran et Washington. L'Iran a attaqué deux bases irakiennes abritant des soldats américains en riposte à la frappe américaine que défend Mike Pompeo.
En Guinée, l'opposition annonce le boycott des législatives prévu le 16 février.
La rougeole tue encore en République démocratique du Congo. Selon l'OMS, 25% des cas concernent les enfants de plus de 5 ans.
Retour des forces de l'ordre au PK5 à Bangui. Le quartier le plus craint de la capitale centrafricaine reprend des marques de sécurité.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco, mais d'abord le journal.
5 jours après l'élimination du général Qassem Soleimani par les États-Unis, l'Iran a riposté mercredi en tirant des missiles contre 2 bases abritant des soldats américains en Irak. Selon le Pentagone, 12 de missiles ont été lancés depuis l'Iran contre les bases d'Aïn al-Assad et d'Erbil. Le point avec Jean-Roger Bion.
Ces raids revendiqués par Téhéran marquent un tournant faisant redouter une escalade régionale ou un conflit ouvert, même si dirigeants américains et iraniens ont rapidement semblé vouloir calmer le jeu. Dans un tweet, le président américain Donald Trump a indiqué qu'il ferait une déclaration mercredi matin et laissé entendre que le bilan n'était pas très lourd. L'évaluation des dégâts et des victimes est en cours. Jusqu'ici, tout va bien, a-t-il lancé. De son côté, Mohamed Javad Zarif, chef de la diplomatie iranienne, a affirmé que son pays avait mené et terminé dans la nuit des représailles proportionnées. « Nous ne cherchons pas l'escalade ou la guerre », a-t-il insisté. L'Agence fédérale de l'aviation américaine a interdit aux avions civils américains le survol de l'Irak, de l'Iran et du Golfe. Les gardiens de la révolution iranienne, l'armée idéologique de la République islamique, ont conseillé à Washington de rappeler ses troupes déployées dans la région afin d'éviter de nouvelles pertes et menacer de frapper Israël et des gouvernements alliés de l'Amérique. Ceux-ci interviennent alors que se terminent à peine les funérailles du général Qassem Soleimani, assassiné vendredi à Bagdad avec l'Irakien Abu Mehdi al-Mouhandis, leader des paramilitaires pro-Iran, désormais intégré aux forces de sécurité irakiennes.
Quelle lecture peut-on faire de cette situation tendue entre Téhéran et Washington? Pour nous en parler, j'ai contacté le docteur Richard Conley. Il est professeur de sciences politiques à l'Université de Floride.
On ne sait pas en ce moment s'il y a des fatalités ou quelque chose d'autre, mais j'imagine que la Maison-Blanche est en train de contempler comment répondre à cette attaque militaire de l'Iran. Et c'est complexe parce que c'est le terrain de l'Irak, pays souverain, et bien sûr maintenant avec les troupes américaines qui se retrouvent là-dedans. Donc il va falloir attendre la réponse de Trump, le président et la Maison-Blanche et les conseillers au président pour savoir comment ou si on va répondre à cette attaque.
Et comment voyez-vous l'aboutissement de cette crise quand on sait qu'un troisième pays, l'Irak, est impliqué également dans ça? Ce n'est pas seulement Téhéran, Washington, mais également Bagdad.
Oui, c'est ça le problème. Je pense que c'est très complexe parce que, oui, bien sûr, il y a des missiles qui sont dirigés vers les troupes situées sur les bases en Irak, mais l'Iran a envahi l'espace souverain de l'Irak. Je ne sais pas, il va falloir attendre, je pense, peut-être le lendemain pour regarder comment la Maison-Blanche va répondre, mais je crains que ça va aboutir à quelques frappes militaires de notre côté ici aux États-Unis. Il faut se demander si ça va escaler jusqu'à un point où il y a vraiment la guerre déclarée ou non déclarée par le Congrès américain, si on se retrouve dans une situation où il y a des troupes qui sont situées contre l'Iran, soit en Irak, soit quelque part d'autre. C'est la pagaille.
Dr. Richard Conley, professeur de sciences politiques à l'Université de Floride.
La riposte iranienne a eu lieu après que le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a défendu hier la légalité de la frappe américaine qui a tué le général Qassem Soleimani. Il a défendu aussi toute future action militaire des États-Unis contre l'Iran. Les précisions d'Abdulrahman Dia.
Le président Donald Trump avait absolument les bases légales appropriées pour donner l'ordre de tuer le haut responsable des gardiens de la révolution, a déclaré Mike Pompeo lors d'une conférence de presse à Washington. Mike Pompeo a davantage insisté sur les actions de Qassem Soleimani en Syrie, au Liban ou en Irak et sur la mort d'un sous-traitant américain en territoire irakien fin décembre. Si vous cherchez des choses imminentes, il suffit de regarder ce qui s'est passé dans les jours qui ont mené à la frappe contre Soleimani, a-t-il dit. Il a aussi accusé le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohamed Javad Zarif, de n'avoir pas dit la vérité sur le déplacement en Irak de Qassem Soleimani. Il a dit que Soleimani était à Bagdad en mission diplomatique. Qui peut croire ça, a lancé le secrétaire d'État américain. Interrogé sur la menace du président Trump de frapper des sites culturels iraniens en cas de riposte militaire de Téhéran, le chef de la diplomatie américaine a de nouveau assuré que Washington agirait conformément au droit international.
Les présidents Recep Tayyip Erdogan et Vladimir Poutine inaugurent aujourd'hui même en Turquie un gazoduc illustrant leur rapprochement. Mais la cérémonie risque d'être éclipsée par la situation volatile en Libye et en Syrie où leurs intérêts divergent.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique. L'actualité en Afrique, en Guinée, les principaux partis d'opposition ont confirmé hier leur intention de boycotter les législatives prévues le 16 février. C'était au lendemain d'une nouvelle mobilisation contre la volonté prêtée au président Alpha Condé de briguer un troisième mandat. Le point avec Ekia Badou.
Amadou Salif Kébé, président de la Commission électorale nationale indépendante, a déclaré hier que la CENI a enregistré le dépôt de listes émanant de 29 partis, dont le RPG au pouvoir. Ces partis vont se disputer 76 sur les 114 sièges de l'Assemblée nationale mis en jeu sur des listes nationales qui seront réparties à la proportionnelle. Les sièges restants seront désignés lors de scrutins majoritaires à un seul tour dans les 38 circonscriptions du pays. 14 partis ont inscrit des candidats pour ce scrutin majoritaire selon M. Kébé. Les conditions pour une élection transparente ne sont pas réunies d'après Seloud Alain Diallo, leader de l'opposition. Il confirme le boycott et réclame un fichier électoral assaini, un recensement correct des électeurs et un président de la commission électorale moins partisan. Ces élections, on les empêchera, a-t-il ajouté. Sidya Touré et autres leaders de l'opposition ont tenu des propos similaires. L'opposition avait déjà annoncé le 23 décembre qu'elle boycotterait ce scrutin, plusieurs fois reporté, et même qu'elle empêcherait sa tenue.
L'épidémie de rougeole qui sévit en République démocratique du Congo est la pire au monde selon l'Organisation mondiale de la santé. En un an, elle a déjà tué plus de 6000 personnes. L'OMS demande 40 millions de dollars supplémentaires pour y faire face. Le point avec Eddy Issango.
Les 40 millions de dollars supplémentaires sont nécessaires pour un plan de réponse de 6 mois, visant notamment à étendre la vaccination aux enfants âgés de 6 à 14 ans, indique la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, Dr Matshidiso Moeti. En 2019, plus de 18 millions d'enfants de moins de 5 ans ont été vaccinés à travers le pays et environ 310 000 cas suspects de rougeole ont été recensés. Selon l'OMS, 25 cas de rougeole concernent les enfants de plus de 5 ans qui sont les plus vulnérables. Outre la rougeole, la RDC lutte contre une épidémie d'Ebola qui a déjà fait 2233 morts sur 3390 cas enregistrés d'après les derniers bilans officiels datés du dimanche. Les virus Ebola touchent les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, des régions en proie aux violences en raison de la présence des dizaines de groupes armés locaux et étrangers.
Et toujours en RDC, les autorités ont décidé de fermer l'UNIKIN, l'université de Kinshasa, en raison des émeutes qui agitent le campus depuis 2 jours. La hausse des frais universitaires pour les étudiants qui paient en francs congolais a mis le feu aux poudres. Étudiants et policiers se sont affrontés et au moins un policier aurait été lynché à mort. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
Faisons un
présent le tour d'horizon de l'actualité économique sur le continent avec Nani Tetelet.
Au Cameroun, les exploitants miniers artisanaux ont exporté 654,6 carats de diamants en 2019 grâce à la délivrance aux opérateurs de 7 certificats. Ils ont généré des recettes de plus de 45 millions de francs CFA. Toutefois, le secrétariat permanent national du processus de Kimberley, cité par l'agence Ecofin, affirme que d'importantes quantités de diamants camerounais continuent d'échapper au circuit d'exportation formel. Le secrétariat a pu tracer une production d'environ 1595 carats de diamants, ce qui représente plus du double de la quantité exportée de façon formelle. Le gouvernement tanzanien se dote du GAZES, le système de consolidation de la comptabilité publique, une plateforme de contrôle des transactions financières publiques. L'infrastructure est destinée à garantir la transparence et l'efficacité dans l'utilisation des ressources financières de l'État. Le système, qui relie tous les états financiers du gouvernement et de la fonction publique, permettra un accès en temps réel aux informations comptables du gouvernement central, de l'administration locale, des agences et des sociétés publiques. Pour terminer, l'Éthiopie mobilise 194 millions de dollars pour construire 4 routes nationales d'une longueur totale de 299 km. 3 de ces routes seront entièrement financées par le gouvernement éthiopien et la quatrième bénéficiera d'un appui financier de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique et du Fonds OPEP pour le développement international.
La page sport aujourd'hui, c'est avec Bagassi Koura. Bagassi, bonjour.
Oui, bonjour Herman, bonjour à tous.
L'attaquant sénégalais Sadio Mané, ballon d'or de meilleur joueur africain de 2019.
Sadio Mané.
C'était hier soir au cours d'une cérémonie à Hurghada en Égypte. Le joueur de Liverpool de 27 ans devance son équipier égyptien Mohamed Salah et l'Algérien Riyad Mahrez. Riyad Mahrez, capitaine, est l'un des principaux artisans de la victoire des Fenech lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Et c'était la première fois que Mané décroche cette récompense.
Je suis tellement fier, comme tu l'as dit, Samuel. C'est un grand jeu pour moi et je suis vraiment content. Je suis vraiment content encore une fois. Bonne soirée à tous et j'espère que
nous avons du plaisir. Et à Dakar, la nouvelle du sacre du lion de la Teranga était très attendue. Écoutons quelques réactions dans les rues de Dakar au micro de notre correspondant Seydina Abagué.
Ben, je pense que c'est simplement mérité parce que aussi quoi qu'on dise, Sadio était sur la bonne pente, ça fait maintenant 3 ans. L'année dernière même, on disait peut-être qu'il était bien prétendant à cette course de Ballon d'Or. Donc cette année-ci, c'est la bonne pour lui. Et donc on s'en réjouit et
ça m'a fait plaisir parce qu'on a toujours rêvé que Sadio Mané devait être Ballon d'Or européen, mais comme qu'il est Ballon d'Or africain, ça nous a fait plaisir.
Je dirais un ouf de soulagement. Très sincèrement, on l'attendait avec impatience ce Ballon d'Or. Et Sadio est vraiment une fierté pour notre pays. Et c'est tout le mal que nous lui souhaitons en tout cas, qu'il puisse devenir un jour notre Ballon d'Or international.
Il nous avait promis ça à Dakar, il l'a fait en Égypte. Vu la saison qu'il a réalisée, la saison 2018-2019, c'est vraiment mérité. Nous lui souhaitons bon vent et que d'autres récompenses individuelles y suivent.
Pour la catégorie femme, Aziza Oshoala, la Nigériane, a été désignée joueuse africaine de l'année pour la 4e fois, égalant le record de sa compatriote Perpetua Nkuosha. Elle a récolté 351 voix, 30 de plus que l'attaquante camerounaise Adjara Nchout et Tembi Ngatlana, qui avait 247 voix. Pour l'Interclub de l'année, Youssef Belaïli a remporté le prix suite à sa brillante performance pour son club en Ligue des champions de la CAF avec l'Espérance. Le prix du jeune joueur de l'année a lui été décerné au Marocain Achraf Hakimi, tandis que Jamel Belmadi et Désiré Ellis ont respectivement été choisis entraîneurs de l'année côté masculin et féminin. Notons également que Moïse Katumbi, président du TP Mazembe en RDC, a été désigné meilleur président de club sur le continent. Et pour terminer, quelques résultats de la NBA, le championnat nord-américain de basketball.
Alors ici, Détroit a pris le meilleur sur Cleveland, 115-113. Portland a battu Toronto, 101-99. Oklahoma a obtenu la victoire devant Brooklyn, 111-103. Minnesota a perdu face au Memphis, 112-119. Sacramento l'a remporté face à Phoenix, 114-103.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Irune Herman Arouba. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, des recalés au concours de la police dénoncent une magouille de la direction générale. Ils protestent contre les résultats du concours de la promotion 2019 qu'ils jugent discriminatoire, ce que rejette la direction générale de la police qui estime que le concours a été bien organisé. Les précisions avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
C'est la loi de programmation de la sécurité intérieure qui prévoit le recrutement de 6000 policiers à l'horizon 2021 pour permettre un meilleur maillage du territoire national. Moussa Ag Infahi, directeur général de la police nationale du Mali.
La direction de la formation de la police nationale à travers l'école n'a pas changé. Nous sommes dans un plan quinquennal de recrutement jusqu'en 2021 chaque année. Donc on n'a pas oublié aussi le fonctionnaire de police qui est déjà lui en fonction parce que lui aussi il a à arriver dans sa carrière. C'est ainsi que nous avons organisé un concours professionnel, tout ça pour renforcer les ressources humaines et donner aussi la chance à un policier de rouler dans sa carrière.
Le concours de recrutement 2019 entre dans ce cadre, mais déjà, certains candidats récalés au niveau des questions orales dénoncent une tentative de marginalisation orchestrée par la direction générale de la police. Noum Gakou, candidat récalé.
23 000 et quelques, c'est la liste des candidats commissaires, alors que le nombre total d'inscrits, des candidats commissaires inscrits sur la liste s'élève à seulement 900 et quelques, de 900 quand on va à 23 000 et quelques. Vous voyez que ça ne s'accorde pas. Parmi les candidats admis, figurent plusieurs candidats qui ont été admis sans composer car ils avaient été écartés à la visite corporelle. Or, ce sont les résultats de la visite corporelle qui ont servi à l'épreuve écrite. Donc, n'étant pas admis à la visite corporelle, n'ayant pas participé à l'épreuve écrite, ils se trouvent admis à la visite épreuve. Est-ce une transparence?
Ces jeunes récalés doivent être une bonne réserve pour la police nationale. Ousmane Diak.
J'estime que le ministre de la Sécurité et de la Présidence civile ne doit pas abandonner ces jeunes. Ce sont des jeunes qui ont été déjà déclarés à la visite médicale, bien portant. Donc, puisque l'armée malienne souffre d'un manque d'effectifs criards, ces jeunes qui viennent d'être déclarés bien portants à la suite de la visite médicale, mais qui n'ont pas pu avoir la chance d'être admis au niveau de l'entretien, ce sont des jeunes qui peuvent être le potentiel aujourd'hui au sein de la police. Déjà, une première vague est rentrée, qui est la vague du recrutement de 2018. Il peut prendre ceci comme une deuxième vague.
Le Mali doit revoir son système de recrutement lors des concours et examens, car c'est toujours entaché de magouilles. Abdramane Diallo Dikaou, membre du parti PACP.
Ce n'est pas seulement la police, ça concerne beaucoup de corps dans l'administration. Tout le monde connaît, tout le monde est informé. Le concours, il faut passer par quelqu'un, il faut payer 3 millions, 4 millions, même pour des simples catégories B ou B, catégories C. Tout le monde le sait, ça a tout le temps été comme ça. Donc si on veut le faire, il faut vraiment faire une grande moralisation pour nettoyer tout ça. Si les gens ont des ajustements, ils ont des argent, ils ont des captures d'écran, ils ont des audios, qu'ils saisissent la justice.
Les récalés veulent se battre jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Noum Gakou, récalé.
On attend cette information qu'il y aura la proclamation d'une liste dont nous irons le quota et on ne sait pas sur quelle base ces gens-là seront retenus. On ne sait pas et là, nous collectifs, nous demandons aux autorités, à l'État malien, n'est-ce pas, aux responsables de ces actes-là, nous voulons vraiment une reconduction de tous les candidats récalés à l'épreuve orale. Nous, quand même, on est décidés. On est très déterminés, résolus. On ne va jamais, jamais baisser les bras.
Il faut signaler que 2200 recrues, dont 500 femmes avec des officiers et des sous-officiers, ont commencé leur formation le 23 décembre 2019 à l'école de la police et au groupement mobile de sécurité. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
«
Au Niger, plus de 300 demandeurs d'asile soudanais ont été arrêtés par la police. Ils sont accusés d'avoir incendié leur camp près de la ville d'Agadez, dans le nord du pays. Le point avec notre correspondant Abdourazak Idrissa.
Les 335 demandeurs d'asile, tous de nationalité soudanaise, arrêtés après les événements, vont être poursuivis pour 4 chefs d'accusation, selon Seyni Seydou, procureur de la République près le tribunal d'Agadez.
L'attroupement non armé sur la voie publique, la rébellion, la destruction volontaire des biens, meubles et immeubles, et l'incendie volontaire des lieux servant d'habitation. Donc malgré leur nombre très élevé, vu la gravité des faits retenus contre eux, nous avons décidé de les poursuivre pour qu'ils répondent de leurs actes. Compte tenu du fait qu'ils sont des étrangers, les avis de poursuite seront notifiés aux autorités compétentes pour d'éventuelles mesures.
Au niveau des populations de la ville d'Agadez, les actes posés par ces migrants sont simplement inacceptables.
Ils sont ingérables parce qu'au tout début, d'abord, ils ont commencé avec les gens du quartier. Il y a 2 ans de cela qu'ils étaient là. Ils ont commencé à ne pas se comprendre avec les gens du quartier. Ils attaquaient les petits garçons quand on les envoie avec de l'argent, des petites filles. Il essaie de violer, donc tout, il faut trouver une solution pour dégager ces gens-là.
C'est un acte regrettable dans la mesure où ces migrants, ces demandeurs d'asile étaient bien accueillis à Agadez, étaient bien en tout cas logés à Agadez. Un quartier donc a été construit pour qu'ils puissent vraiment se sentir à l'aise pendant leur séjour ici à Agadez. Mais malgré tout ça, là, ils ont bougé, ils ont en tout cas créé ce crime-là qui est de mettre le feu dans ces quartiers-là, dans ces logements. Et pour nous, c'est un acte criminel vraiment.
Face à la gravité de la situation, la représentante du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a effectué le déplacement d'Agadez, Alexandra Morielli.
Le HCR est à l'écoute et à confiance du travail de la justice du gouvernement du Niger. On va suivre, on va attendre. Et la justice fera son cours, comme on dit. Par rapport au site, ça fait mal au cœur. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est le cœur d'une équipe entière du HCR Niger qui est brisée en ce moment. J'ai parlé aux jeunes, je leur ai dit de ne plus choisir la violence comme outil pour se faire écouter. C'est le dialogue qui sauve, ce n'est pas la violence.
Abdulrazak Idrissa, à Niamey pour VOA Afrique.
Au Tchad, les propriétaires de bars et alimentations ont fermé boutique depuis hier. Ils répondent ainsi à l'appel de 2 jours de boycott lancé par une organisation tchadienne qui lutte contre la vie chère pour protester contre l'augmentation des produits de brasserie. Les précisions avec notre correspondant au Tchad, André Code Majinga.
Un mouvement de protestation bien suivi en N'Djamena, capitale du Tchad et dans les provinces. C'est une initiative du collectif tchadien contre la vie chère qui trouve anormal que les brasseries du Tchad BDT puissent augmenter les prix de ses produits sans en informer au préalable les consommateurs. Les différentes bières et boissons non alcoolisées qui se vendaient entre 500 et 700 francs CFA se vendent désormais entre 650 et 850 francs CFA. Une augmentation qui fait suite à la hausse de taxes sur les prix des produits des BDT prévus dans la loi des finances 2020 par le gouvernement tchadien. Réaction de quelques consommateurs.
Ça me pénalise en tant que consommateur parce que ça joue sur l'économie. Je sais qu'avec 1500, je peux prendre 2 bouteilles, mais maintenant, je ne fais pas prendre 2 bouteilles. C'est vraiment un manque de respect envers les consommateurs.
On peut faire une augmentation progressive, des augmentations légères, mais une augmentation aussi élevée, c'est très mauvais pour les consommateurs. Le week-end, par exemple, ou après une semaine de travail, on a besoin un peu de se distraire. Quand les bars sont fermés, c'est un peu compliqué.
Si tu es fermé définitivement, je ne vois pas le mal. Déjà, il y a notre bilbili qui est là. Fais sirotez tranquillement.
Les tchadiens boivent beaucoup. Mais cette fois-ci, les Tchadiens ont réussi quand même à leur grève. Ils ont respecté à plus de 100% même, je peux dire.
Cette fermeture n'est pas sans conséquence sur les tenanciers de bars et alimentation qui ne vivent que de cette activité.
Des journées de marché, là, ça ne nous arrange pas. Donc, on demande aux brasseries pour qu'ils diminuent le prix.
Les consommateurs ne fréquentent pas du tout les lieux de boissons et puis ça constitue des pertes pour nous. On achète de la glace et donc on a fermé hermétiquement comme ça pour attendre à ce que l'État fasse quelque chose chose pour nous. S'ils peuvent revoir leur histoire de taxes augmentées avec la brasserie.
Le président du collectif tchadien contre la vie chère, Dingam Naël, Nelly Versinis, initiateur de ce mouvement de protestation, salue la maturité des tchadiens qui commencent à revendiquer de façon pacifique leurs droits élémentaires.
Il y avait eu contrat d'établissement entre le gouvernement tchadien et les brasseries. Après évaluation, le gouvernement tchadien a constaté que les brasseries du Tchad n'ont pas exécuté le cahier de charges. Et si aujourd'hui, le gouvernement tchadien refuse de renouveler le contrat d'établissement, ce n'est pas à nous, consommateurs, de payer à leur place.
S'ils ne reviennent pas sur leur décision, on mènera deux actions dans les semaines. C'est-à-dire que ça serait une action perlée jusqu'à satisfaction totale de nos revendications.
Pour l'heure, silence radio du côté des brasseries du Tchad. Une protestation qui coïncide avec la grève des travailleurs du secteur public. Ce mardi, les responsables des écoles privées ont libéré les enfants en guise de soutien au mot d'ordre de grève lancé par la plateforme syndicale revendicative. André Kodomadingar Ndiamena, VO Afrique.
À l'issue d'une réunion d'urgence à Bruxelles, les ministres des Affaires étrangères de la France, du Royaume-Uni, d'Allemagne et d'Italie ont condamné mardi toute ingérence extérieure dans le conflit en Libye. La Turquie promet d'envoyer des troupes pour soutenir le GNA à Tripoli. Le Caire, qui soutient le général Khalifa Haftar, a abrité aussi une autre réunion sur la crise libyenne. Est-ce toutes ces positions divergentes ne vont compliquer davantage le chaos libyen? Idriss Fall a joint à Genève à Hassni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe.
Toute intervention étrangère est de nature à compliquer la crise libyenne. Le mérite de la déclaration d'Erdogan et du vote du Parlement turc est certainement de redynamiser un petit peu la dynamique diplomatique qui était complètement à l'arrêt. Aujourd'hui, depuis le vote du Parlement, on voit bien des Égyptiens, mais on voit le réveil de la diplomatie algérienne et même le réveil de la diplomatie européenne de certains pays méditerranéens. On peut dire que finalement, grâce à cette déclaration turque, les pays voisins et les pays européens prennent conscience de l'état très avancé de la crise libyenne.
Mais la Turquie soutient le GNA, Abdel Fattah al-Sisi soutient le gouvernement de Benghazi. Est-ce que ça ne risque pas de compliquer davantage le chaos?
Oui, il n'existe pas une voie commune ou une position commune de la part des États. Le gouvernement de M. Sarraj est soutenu évidemment par la Turquie, par le Qatar et récemment par l'Algérie. On a bien vu la déclaration très forte d'Alger qui dit que Tripoli est une ligne rouge, c'est nouveau dans la diplomatie algérienne, mais on voit bien aussi du côté européen que la France et l'Italie ne sont plus en désaccord et c'est pourquoi ils assistent tous les deux à la réunion du Caire. Donc ce n'est pas pour les mêmes raisons, c'est surtout la Grèce et Chypre, c'est pour des raisons plutôt énergétiques, pour les raisons de délimitation des frontières maritimes, alors que l'Égypte et les Émirats arabes unis sont derrière Haftar à Benghazi. Donc cette politique, évidemment, est très nocive pour le règlement de la crise libyenne et surtout elle va compliquer la tâche des Nations Unies qui n'a pas réussi encore à donner même un délai pour la conférence de Berlin, censée imposer en quelque sorte une initiative diplomatique.
Et on parle déjà d'une présence russe et apparemment Washington semble avoir un penchant de sympathie pour Khalifa Haftar.
C'est le grand paradoxe. Le gouvernement de Sarraj avait misé sur la présence russe ou sur des compagnies privées proches de Moscou pour intéresser les États-Unis. Washington n'est pas du tout intéressé par la crise libyenne et on pensait qu'avec la présence russe, les Américains allaient changer d'avis. Ce n'est pas le cas. Les Américains, ils sont toujours dans une position d'attentisme. On sait qu'ils sont présents dans le Sud, dans certains pays africains limitrophes, pour la lutte contre l'État islamique. Malheureusement, aujourd'hui, la position de Moscou, elle est proche de celle de Ankara en Syrie. Moscou et Alger ont une convergence diplomatique, mais la Libye risque de cristalliser et d'éloigner un petit peu les positions de certains États importants comme la Russie, les États-Unis, mais la Russie et la Turquie et la Russie et l'Algérie.
Est-ce que les Africains qui subissent les effets de la crise libyenne ont leur mot à dire dans cette affaire?
Ça, c'est la question principale et la question déterminante. Le problème, c'est que l'Union africaine, comme vous le savez, le président actuel est le maréchal Sisi. Et le maréchal Sisi a une position qui est différente de celle de l'Union africaine qui s'oppose à une intervention étrangère. Je pense qu'à Addis Abeba, l'Union africaine est appelée ces jours prochains à présenter son initiative. Il y a une réunion prévue au Conseil pour la sécurité L'Afrique doit absolument s'occuper d'un État pionnier en Afrique et dont l'instabilité va avoir des conséquences importantes sur les autres pays de l'Afrique.
C'était à l'instant Hasni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe à Genève.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi à la console Jimmy Cook. Merci à Anne Alberson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Irénée Hermann-Ngoua, Washington. Bonne journée à toutes et à tous à l'écoute de VOA Afrique. N'oubliez pas de visiter notre site internet www.voafrique.com et notre page Facebook VOA Afrique. Au revoir.